Je vais m'arrêter aujourd'hui sur la première lecture, sur la description de la première communauté chrétienne entre Ascension et Pentecôte, car c'est notre situation liturgique du moment. Et puis, je vais voir ce focus très discret sur la place de la Vierge Marie. Et puis enfin, on va voir comment nous pouvons actualiser cette parole. Donc les disciples sont au Cénacle, à la chambre haute, très vraisemblablement là où Jésus a fait son dernier repas, a fait le testament que nous venons d'entendre. C'est un lieu très important parce qu'il fait le lien entre les dernières paroles de Jésus, ses derniers instants, et le moment où l'Esprit est attendu pour reposer sur la communauté. On nous donne la liste des 11 apôtres et puis il y a une description à l'imparfait. L'imparfait, en grec, c'est pas exactement celui que nous avons chez nous, mais ça montre les traits permanents de la communauté croyante. Ça dure. Il y a quatre caractéristiques. Ils sont d'un seul cœur, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité. Il y a vraiment une communion. Ils sont assidus ou persévérants dans la prière. Il y a la présence non seulement d'hommes, mais aussi de femmes, les femmes disciples qui étaient là à la croix le Vendredi Saint. Et puis il y a, on dit, la mère de Jésus et puis les membres de sa famille. Il y a donc non seulement le noyau des 12, mais il y a la communauté rassemblée. Et dans cette communauté, il y a donc Marie. Cette présence de Marie est indispensable. Parce qu'au moment de la Passion, elle est la seule à avoir cru et espéré contre toute espérance. Même Saint Jean, qui était pourtant au pied de la croix, lui, il a fui le Jeudi Saint dans le Jardin des Oliviers avec les autres. Et par sa foi et sa confiance, elle attire vraiment l'Esprit Saint. Elle a l'Esprit en elle. Elle a été habitée par le Verbe. Quelqu'un l'a comparé au Cénacle comme un paratonnerre. Ben, écoutez, l'Esprit Saint n'est pas la foudre, ce n'est pas une très bonne image, mais on voit ce que la personne qui employait cette image voulait dire. Elle attire l'Esprit Saint. On l'a vu à Cana, on l'a vu, Marie si audacieuse. Elle est là vraiment comme une maîtresse de prière pour les disciples. Elle leur apprend à prier. Et spécialement la supplication, c'est-à-dire l'engagement à fond dans la prière. On peut imaginer que les disciples sont sous le choc du départ de Jésus. Ils ne savent peut-être pas trop où ils sont. Ils sont complètement pris au dépourvu. Peut-être qu'ils vivent le départ de Jésus, même s'il y avait les assurances que Jésus a données le Jeudi Saint, mais ils le vivent comme un abandon. Et Marie, cette expérience que Dieu ne nous abandonne jamais, et cette expérience que la venue de l'Esprit-Saint est totalement gratuite, mais encore faut-il la demander, la chercher, la supplier. Et j'en viens à ce moment que nous vivons, ma troisième partie. Nous sommes donc non seulement dans le temps liturgique entre Ascension et Pentecôte, où nous demandons le renouvellement du monde et de l'Église grâce à notre prière plus instante, d'où le mot « neuvaine », les 9 jours entre Ascension et Pentecôte, une prière plus persistante. Mais je voudrais mentionner une annonce qui passe quasi inaperçue, qui pour moi est très importante. C'est la fermeture de nombreuses abbayes, de nombreux carmels, de nombreux monastères. Des fermetures du fait de l'âge de ces priants, une fermeture qui ne fait pas de bruit, mais nous pouvons nous arrêter un instant et voir comment va devenir l'Église et le monde sans ces oasis de prière, ces oasis où nous respirons un oxygène spirituel qui n'est pas quantifiable, bien sûr. Alors on peut se dire, le Seigneur y pourvoira. Mais qu'allons-nous devenir sans ces cénacles qui appelle l'Esprit sur le monde et sur l'Église. Et je formule un vœu que des chrétiens de tous âges, de toutes conditions, prennent une sorte de relais, en s'engageant plus résolument encore dans la prière. Certes, nous ne pourrons pas pallier la force de ces hommes et de ces femmes engagés jour et nuit dans la prière, mais le Seigneur certainement saura exaucer nos désirs, nos intercessions. Et je terminerai en pensant spécialement aux malades. Nous allons donner tout à l'heure à la messe de 11h le sacrement des malades à une vingtaine de frères et sœurs. C'est ces frères, ces sœurs malades qui se sentent inutiles dans le corps de l'Église, liés à la souffrance, à la douleur, à l'incapacité de bouger souvent, l'épuisement du corps et de l'âme, quelquefois même un épuisement psychique. Je voudrais parler spécialement de la prière de ces malades. La prière est plus difficile la plupart du temps, du fait de cet épuisement. Mais il y a aussi une prière qui vaut de l'or. Et la prière diurne, mais aussi nocturne, au moment des insomnies. C'est cette prière où on va jusqu'au bout de soi. Cette semaine, j'ai rencontré un homme qui est atteint de façon sévère d'un Parkinson. Un homme qui tourne vraiment au ralenti dans ses déplacements, dans ses gestes, aussi dans le rythme de ses paroles. Il me disait qu'il n'arrivait plus, lui qui certainement priait, n'arrivait même plus à aller jusqu'au bout du « Je vous salue Marie » et du « Notre Père », les prières les plus simples. Alors nous avons conversé et je lui ai proposé de dire seulement « Je vous salue Marie » ou « Marie » ou « Jésus » ou « Notre Père » ou « Esprit Saint ». Avec le mouvement de la respiration, spécialement la nuit, comme nous sommes allongés, rejoignant en cela l'intuition de la prière d'Orient, la prière dite de Jésus. Et je crois, je termine, je crois que cette prière vaut de l'or et elle appelle l'Esprit sur le monde. Amen.